RFI, grand reportage.
Mariam El Kurdi.
Direction la Centrafrique maintenant. RFI vous fait part jour après jour de l'actualité de ce pays qui s'est enfoncé dans la violence en raison de l'absence d'État et de justice. Le grand reportage de la rédaction est consacré aujourd'hui aux conséquences économiques et sociales de cette crise. Maisons détruites, populations déplacées, greniers et élevages pillés. L'économie de survie qui permettait aux Centrafricains de tenir bon a été complètement déstabilisée. Centrafrique, le prix de la crise, c'est une enquête signée Boris Vichit et Laurent Corot.
Après plus d'un an et demi de crise, Bangui ne sait plus vraiment qui elle est. Plusieurs villes se côtoient. Un centre qui grouille de vie et de véhicules. Une enclave musulmane, le PK5, assiégée par les milices. Un gigantesque bidonville, le camp de déplacés de Mpoko, où la peur maintient des dizaines de milliers de personnes. Plusieurs villes, mais partout le même dénuement, la même privation. Quartier de Boyrab, camp de déplacés du monastère. De petits poissons envoyés par des parents cuisent au fond d'une marmite.
Voici ce qu'on prépare là, avec de petits poissons comme ça. On prépare avec des pâtes d'arachide.
Il faudra nourrir 4 personnes avec le plat.
On ne mange pas assez. S'il y en a qui trouvent quelque à manger, on partage ça. On partage un peu. Bon, on mange.
Aéroport de Bangui, camp de Mpoko. Les tentes faites de sacs et de branches occupent la zone marécageuse qui commence au pied des pistes. Le repas quotidien est ici aussi une préoccupation. Bernadette Gambo est la présidente du comité du 3e âge du site de Mpoko.
Trouver à manger, c'est pas facile. Les gens arrivent péniblement à manger une seule fois par jour. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se nourrir normalement. Les mamans préparent les feuilles de légumes avec la boule de manioc seulement et puis mangent ça. C'est pas ce qu'il faut pour l'organisme d'un individu. Parce que tout le temps, la même chose, parce qu'ils n'ont pas le moyen. Il y a un problème de variété alimentaire qui se pose.
Le complexe pédiatrique de Bangui est l'un des endroits où se mesure le prix de la crise. Dans l'une des chambres, posée par sa mère sur son lit, Abigail, âgée de 5 mois, ne pèse que 2 kilos. C'est le tiers de ce qu'il aurait dû peser. Le déplacement des populations dans Bangui a provoqué une forte hausse du nombre d'enfants malnutris, comme l'explique le docteur Doyamavosa.
Par rapport à la même période de l'année passée, nous avons 3 fois plus de malades. Ça s'explique par le fait que la population s'est déplacée, ce qui fait que les gens ne sont pas chez eux. Donc ils n'ont pas assez à manger pour eux et pour leurs enfants. Ça veut dire que la sécurité alimentaire n'est pas assurée. C'est ce qui explique vraiment cette augmentation du taux de malnutrition. Plus de la moitié des familles qui sont ici viennent des sites de déplacés.
Dans l'ensemble du pays, près de 9000 enfants ont déjà été traités entre début janvier et fin mai pour des cas de malnutrition aiguë sévère. Les populations restées chez elles ou qui ont pu regagner leur domicile dans la capitale font face, elles aussi, à de graves difficultés. Bangui, quartier de Ndri, au pied des collines. On arrive dans les champs après avoir marché quelques minutes au milieu des hautes herbes. Dans une capitale où l'activité économique est déjà faible en temps ordinaire, cultiver une parcelle est une nécessité. Quand l'argent vient à se faire rare, cela devient même un véritable moyen de survie, comme l'explique cette femme, au milieu des longues tiges de manioc.
Avant, on mangeait facilement de la viande, mais maintenant, on se contente de légumes, car la viande est devenue très chère. Le poisson et le poulet aussi sont chers. Le soir, je prépare la feuille de manioc avec le riz, parfois avec la boule de manioc. Acheter des tomates ou des oignons, en revanche, ça n'est plus possible. Je ne peux préparer que ce que je cultive dans mon champ. Je vais juste au marché pour me procurer l'huile de palme, le sel et quelques condiments.
Ces activités d'agriculture urbaine ont souffert elles aussi de la crise, car ces derniers mois, l'insécurité a dissuadé de nombreux paysans des villes de se rendre dans leurs champs. Quelques mètres plus loin, dans une autre parcelle, un homme témoigne.
On a beaucoup perdu en temps d'abord, parce que nous ne pouvions pas travailler correctement 3, 4, 5, 6 mois. Les Sénégas, ils habitaient là au camp Kassai, tout près de nous ici. Il faut s'attendre à tout. Hein? Vous voyez, les obus sifflaient, les balles, tout ça. Et puis, pris de peur, on se cachait. Hein? Vous voyez? Non, on venait de commencer à cultiver il y a à peine 2 mois. À peine 2 mois. Mais mon problème maintenant, c'est les semences.
Les mécanismes de survie des populations n'ont pas seulement été déstabilisés à Bangui, mais aussi à l'intérieur du pays, dans les villes moyennes et dans le monde rural. La préfecture de Lombé-Limpopo n'a pas été l'une des plus touchées par la crise. Le nombre de déplacés y est estimé à 15 000. Mais Gérard Sambo-Belanzo, le président du réseau des groupements agro-pastoraux de Lombé-Limpopo, n'hésite pas à parler de dévastation de l'économie rurale.
Dans Lombé-Limpopo, beaucoup de zones culturelles ont été dévastées. Les militaires ont commencé à attaquer les villages, à attaquer les paysans, quelquefois sans motif. Et cette insécurité a entraîné la fuite massive des paysans vers des zones forestières lointaines, abandonnant les cultures, abandonnant leur patrimoine rural. Lorsque ces sélicats sont revenus, ont trouvé des villages, ils les ont incendiés. Détruit aussi les champs, y compris même les petits élevages, les cabris, les poulets. C'est cette crise qui a fait dévaster cette communauté.
Cette privation de moyens de culture empêche de nombreux ruraux de produire correctement et fait augmenter le nombre de villageois dépendants de l'aide humanitaire. Pierre Vautier, coordinateur de la réponse d'urgence de la FAO à Bangui.
La conséquence de la crise, ça a été d'affaiblir les capacités de production, donc les moyens d'existence des populations, déjà dans une situation qui était très fragile. Les gens ont dû se déplacer, ont perdu leur stock de nourriture, mais aussi ont perdu leurs moyens de production, donc les outils, les semences. Donc en fait, on a eu un basculement. Il y a des gens qui étaient en situation limite, qui ont basculé dans une, ce qu'on appelle une crise des moyens d'existence. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont plus capables de produire pour pouvoir s'alimenter eux-mêmes, mais aussi sont plus capables de produire pour pouvoir avoir un minimum de revenus pour pouvoir continuer à vivre. Donc la situation est devenue extrêmement critique. La dernière analyse, qui datait de octobre, calculait qu'il y avait environ 900 000 personnes qui étaient en besoin d'assistance humanitaire. À l'heure actuelle, la dernière analyse qu'on a fait, c'est 1,7 million. Donc on est passé au double. Si les conflits continuent à perdurer au niveau des axes principaux, mais aussi au niveau des campagnes, alors à ce moment-là, la situation non seulement va rester à ce niveau-là, mais pourrait très probablement s'empirer.
La réussite de la prochaine saison agricole est un enjeu capital pour le pays. La FAO distribue par l'intermédiaire d'organisations partenaires des semences et des outils. Awatché, dans le centre-est du pays, est l'un des villages récemment déstabilisés par la crise. Un village où les attaques successives des anti-Balaka et des archépeules alliés à la Séléka ont fini par semer la peur. Jean-Luc Pakachia est l'un des paysans d'Awatché qui ont fait le choix de revenir au village, mais vu la façon dont les travaux des champs ont été perturbés, il s'interroge sur les récoltes à venir.
Et voilà les gars, quoi.
Depuis que certains archépeules ont poursuivi les paysans au champ, nous avons peur. Nous n'avons plus le courage de travailler, de crainte d'être attaqués. On a préparé les parcelles, mais on n'arrive pas à faire les semis de maïs ou à planter les boutures de manioc. Je ne sais pas ce que nous récolterons. Nous allons avoir des problèmes pour nous nourrir.
Ce villageois se tourne vers un endroit où la terre a été remuée il y a quelques jours, l'endroit où repose désormais son fils. Pendant la fuite en brousse, l'enfant a démarré une crise de paludisme qui n'a pas pu être traitée. L'infirmier du village avait lui aussi pris la fuite. Le dispensaire était fermé. Le tueur le plus dangereux à l'heure actuelle en Centrafrique ne porte ni machette ni fusil mitrailleur. C'est le paludisme, une maladie parasitaire qui se transmet par un moustique femelle, l'anophèle. C'était déjà auparavant la première cause de mortalité en Centrafrique. Avec la crise, les populations sont devenues encore plus fragiles. Pour le mesurer, il faut traverser le camp de Mpoko jusqu'à l'hôpital de Médecins Sans Frontières. L'hôpital compte 3 postes de consultation. Le nombre de cas de paludisme augmente de manière préoccupante ces dernières semaines, notamment les cas de paludisme sévère qui se sont multipliés en raison de l'insécurité dans certains quartiers.
Oui, systématiquement, on rentre dans une consultation par check positif.
Hélène Hénaud, responsable médicale de l'hôpital de Mpoko.
Pour la tranche des moins de 5 ans, qui est les patients les plus vulnérables, on est parti semaine 10, on était à 377 cas. Semaine 21, on est à 740 cas de palu confirmés, avec de plus en plus des cas sévères dus aux problèmes d'accès aux soins. Pour certains quartiers, la maman explique bien que c'est pas possible de venir les 2-3 derniers jours et donc elle ne vient que maintenant. Et du coup, le cas de paludisme qu'on aurait pu traiter en ambulatoire, le fait que la maman n'ait pas pu amener l'enfant à temps est devenu sévère avec des complications. Et donc l'enfant est devenu critique, soit par anémie sévère dont nécessite une transfusion, soit un paludisme neurologique avec des complications telles l'hypoglycémie et qui peuvent être fatales.
Sur le site de déplacés du monastère à Boyrab, les populations se plaignent de conditions de vie qui les exposent au paludisme.
Ici à monastère, il y a beaucoup de gens qui souffrent ici. Quand la nuit, on dort sur la terre avec du carton que nous laissons par terre et nous dormons dedans. Les mouches nous piquent beaucoup. Il n'y en a pas de moustiquaires, il n'y a rien.
Au centre de santé Saint-Luc, situé à deux pas de là, le frère Balthazar témoigne lui aussi de cette plus grande fragilité des populations face aux parasites en raison de la crise.
Vraiment, il y a une très grande montée de cas de paludisme parce que 70% des maladies qu'on soigne ici, c'est le palu qui se présente, quoi. Il y a plus de cas de palu cette année que l'année dernière. La crise a aggravé parce qu'il y a vraiment une grande différence. L'année passée, on faisait par mois une trentaine de cas de palu. Mais depuis que la crise a commencé, ça fait 70 ou 75 cas de palu par mois. Les gens qui viennent maintenant, d'abord, ils dorment dans des conditions difficiles. L'hygiène aussi est défectueuse. Et puis, l'immunité du corps, quand on ne mange pas bien, quand on n'est pas dans de bonnes conditions, ça diminue et le palu se réveille.
Les déplacés de Bangui ne sont pourtant que la partie visible de cette catastrophe sanitaire potentielle. 425 000 personnes sont déplacées à l'extérieur de la capitale. Combien d'enfants ou d'adultes trop faibles le parasite aura-t-il emporté parmi ces personnes en fuite ou dans des villages privés de structures sanitaires efficaces ? La crise menace aussi l'avenir du pays sur le long terme. Elle a désorganisé la vie scolaire. Lors d'une enquête nationale réalisée en février par le groupe de travail des humanitaires sur l'éducation, les deux tiers des écoles suivies étaient toujours fermées. Plus grave encore, 37% des écoliers centrafricains inscrits en 2012-2013 étaient sortis du système scolaire. 278 000 élèves.
Bon, cette fois-ci, debout. Nous allons chanter une chanson.
À Bambari, dans le centre-est du pays, les parents commencent à renvoyer leurs élèves sur les bancs. Frédéric Mandawanji est le président de l'Union préfectorale des associations de parents d'élèves pour la préfecture de la Waka.
Quand les événements sont arrivés, la peur a pris les parents d'élèves. Il y en a qui ont fui avec leurs enfants dans la brousse. Les maîtres aussi, il y en a qui sont partis à Bangui, il y en a aussi qui ont pris refuge là où ils peuvent être tranquilles. Là maintenant, certaines écoles, par exemple de la ville et dans les périphéries, ont timidement repris. C'est la sécurité qui fait que les enseignants même ne peuvent pas venir et puis les élèves aussi ont peur. Quand les parents écoutent un coup de fusil, donc rapidement ils récupèrent leurs enfants.
Les classes rouvrent, mais selon une enquête menée par l'ONG Triangle Génération Humanitaire dans la sous-préfecture de Bambari, plus on s'éloigne de la ville, plus cette réouverture est difficile. Erwin Daragnès, chef de projet éducation de l'ONG Triangle.
On a vraiment une éducation à trois vitesses qui est en train de se mettre en place dans la sous-préfecture. On a la ville d'abord, où toutes les écoles, ou presque, ont réouvert. Ensuite, on a les écoles situées dans un rayon de 50 km qui, elles, pour la plupart, ont quand même rouvert. Environ 75% de ces écoles ont rouvert. Et on se retrouve après avec les écoles les plus reculées qui, elles, n'ont rouvert qu'à 40% et qui présentent des taux de présence au niveau des élèves assez faibles. Nous, on s'est rendu compte, quand on est parti faire notre évaluation, que les gens ignoraient complètement sous le contexte de la zone, et que par conséquent, ils refusaient d'envoyer leurs enfants, ou parfois même, ils ne savaient pas que les cours avaient repris. Ensuite, il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est manque de fournitures scolaires, manque de mobilier, les écoles ont été pillées. Il y a aussi également le manque de moyens financiers des parents qui ne peuvent plus payer ce qu'on appelle l'écolage, donc qui permet de rémunérer les maîtres parents. Donc c'est un coût mensuel que les familles ne peuvent plus assumer.
L'insécurité est au cœur de la crise actuelle, mais réduire cette insécurité ne suffira pas à remettre le pays sur les rails. La crise a déstabilisé l'économie locale. Certaines populations sont arrivées au bout de leur capacité de résistance. Centrafrique, le prix de la crise, un reportage de Boris Vichit et Laurent Corot, réalisation Marc Minatel.
On continue en musique maintenant. Découvrez tout au long de l'été les artistes en playlist RFI. Aujourd'hui, Cantinero, qui fait partie de la sélection du mois de nos programmateurs et que l'on retrouve tout l'été en playlist RFI avec ce titre « Je suis ton homme ».
Se perdre, j'ai pas encore trouvé mon rôle. J'ai pas trouvé la perle. Puisque c'est foutu, puisqu'ils ne feront pas mieux, puisque c'est à la fortune qu'on reconnaît les nouveaux dieux. Puisqu'ils sont tous la trouille, y'en a plus un qu'à l'écoute. S'il faut bousculer. Alors je suis ton homme. Puisqu'aucun a la carrure d'un porteur d'étendard. Leurs slogans sont à la rue. Puisqu'il faudra rentrer dans le tas. Puisqu'il faut lâcher les chiens. Puisqu'il faut désobéir. Puisqu'il faut aller trop loin pour éviter le pire. Puisqu'ils ont brûlé le maquis. Puisqu'il n'y a plus de zone libre. Puisque la course a un prix. C'est la tempête qui nous guide. Puisque c'est foutu, puisqu'ils ne feront pas mieux, puisque c'est à la fortune qu'on reconnaît les nouveaux dieux. Puisqu'ils sont tous la trouille, y'en a plus un qu'à l'écoute. S'il faut bousculer les normes, alors je suis ton homme. Puisqu'ils sont tous. Puisqu'ils ne feront pas mieux, puisque c'est à la fortune qu'on reconnaît les nouveaux dieux.